Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, toutes les tendances de la mode aujourd'hui avec notre partenaire, le magazine Brune. Bonjour Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être fidèle au poste, rédactrice en chef de Brune. Vous sillonnez le continent africain à l'affût des nouveaux talents. Dans le nouveau numéro, vous décryptez aussi les looks afro-parisiens, on en parlera, ultra créatifs, une tribu au sens mode du terme, en pleine effervescence. Vous nous parlez souvent dans cette émission de la professionnalisation nécessaire des métiers de la mode sur le continent africain, puisque c'est votre spécialité. Justement, on reçoit Angèle Hernu-Ringeval. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
À vous, vous publiez un livre consacré à ces pros françaises en France qui vivent de la mode et qui la font vivre. Votre livre s'appelle Inside Fashion, c'est-à-dire la mode vue de l'intérieur, portrait de 18 parisiennes qui ne sont pas du tout connues du grand public. Là.
Pas du tout.
Ce ne sont pas des grandes créatrices, des grands créateurs. La mode, c'est quand même un secteur bizarre où le monde entier envie les Françaises, mais où les Françaises ne se sentent pro que quand elles parlent anglais.
Exactement.
Parce qu'il n'y a plus que des mots anglais maintenant, oui. Hein, pour parler de... On ne dit pas un coiffeur, on dit un...
Un hairdresser.
Oui, c'est ça. Ou hair stylist.
Hair designer, c'est ça.
Voilà. Karima Peroni est avec nous. Bonjour. Aussi. Bonjour, la gazelle préférée, toujours impeccable, en studio. Dans le magazine Gazelle, on parle de la transmission des secrets de beauté de Jeddah.
Jeddah, ça veut dire la grand-mère en arabe.
Du lissage des cheveux également. Et puis forcément, on évoquera d'ailleurs avec vous, mesdames, la plainte aux États-Unis, un collectif de consommatrices contre L'Oréal pour une marque de défrisant. Témoignage également dans cette émission d'une blogueuse mode qui monte, Gaëlle Prudencio, 140 kilos, assumée, respectée. Elle est devenue l'un des porte-voix du mouvement, encore de l'anglais, désolée, hein, body positive. Je crois que tout le monde comprend. Donc le corps positif, elle est suivie par plus de 40 000 lectrices en France, aux États-Unis, en Afrique. Et chez vous, les voisins, les voisines, on dit quoi sur la mode? Que signifie par exemple dans votre ville avoir du style? Ou sur votre campus, je ne sais pas. Appelez-nous pour nous parler de vos coups de cœur, mais aussi de tous ces détails vestimentaires qui parfois vous agacent. Je vous donne notre numéro de téléphone, c'est le 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, tous vos messages postés au fil de l'émission sur les réseaux sociaux. Un message de Neftali qui poste de Port-au-Prince, et on parle pas assez de nos voisines à Haïti. Dieu sait que la mode et cette exubérance de chapeau est tout de même assez magnifique. La mode en Haïti, nous dit Neftali, c'est tout un art. Toutes les couleurs se marient. La coiffure la plus en vogue, c'est l'afro. Chez les garçons comme chez les filles, très peu de personnes ont les cheveux permanentes. Vous allez parfois en Haïti ou pas, Marie-Jeanne? Ou pas tant que ça, malgré vos origines?
Pas tant que ça, mais en fait, je rencontre beaucoup de Haïtiens au Canada ou aux États-Unis. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant.
Et pour cause, très grosse communauté aux États-Unis. Fayala nous poste ce message de Conakry en Guinée. Les filles sont accros et influencées par les séries Bollywood et les telenovelas. Leurs tenues ne sont donc pas du tout acceptées par leur religion. Voilà, je vous lirai aussi d'autres messages. On a reçu même des conseils beauté de certains auditeurs. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On vous attend.
33 1 84 22 71 71.
Soyez les bienvenus.
Marie-Jeanne Serbin-Thomas, vous publiez un article intéressant. C'est vrai qu'en mode, en consommation, on parle souvent de socio-style, de tribus pour analyser les segmentations du marché et les tendances. Et vous, vous êtes intéressée aux afro-parisiens.
Oui, alors les afro-parisiens, ce sont des jeunes gens et des jeunes femmes qui, se sentant un petit peu exclus du maelstrom franco-français, ont décidé finalement de piquer à droite à gauche des choses. Ça peut être des éléments de style, de langage, des comportements, et pour en faire quelque chose de nouveau. Alors, où est-ce qu'on les rencontre? Dans beaucoup de soirées parisiennes, dans les défilés de mode, dans la rue. Ils inspirent une certaine mode, mais surtout un comportement. Par exemple, on en rencontre sur Paris, et ils sont très, très à la mode. Donc, alors, quand on leur dit, ce sont des gens en général que l'on connaît, quand on leur dit « on se connaît », Ils vous disent, on se connaît, ça veut dire dégage.
donc snob comme tous les autres dans le monde de la mode.
Ils sont très très snob, mais c'est un snobisme qui est non dépeint d'humour, dans la mesure où quand on leur tape dans le dos, en fait, il y a cette espèce d'africanité au niveau du langage, au niveau du comportement, qui fait que bon, finalement, ce n'est pas très sérieux. Mais ils sont très créatifs.
C'est ça, mais vous dites qu'il y a un besoin pour ces Afro-Parisiens de se créer une identité plus éclectique, piocher sur différents continents et que favorise Paris quand même.
Oui, bien sûr, parce que Paris étant quand même la capitale de la mode, donc en fait, ils piquent à droite et à gauche, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'Afrique, beaucoup de Paris, un petit peu de New York.
Vous pouvez donner des exemples de look un peu pour ceux qui nous écoutent ailleurs, je ne sais pas moi, à Cotonou, à
Los Angeles, des arrondissements.
C'est quoi un Afro-Parisien qui se respecte?
Un Afro-Parisien, par exemple, au niveau des femmes, ce sont d'abord toutes ces femmes qui mettent des loulou-boutins, comme je les appelle.
Ah oui, les loulou-boutines.
Voilà, les loulou-boutines.
Donc les fameuses chaussures avec la semelle rouge.
Mais là, on ne les retrouve pas à Strasbourg-Saint-Denis.
Non, mais ce n'est pas une histoire de quartier. Moi, j'en connais qui habitent Mantes, la Jolie ou quoi que ce soit, mais ils sont les premiers à être dans les grands défilés de mode à Paris.
D'accord.
Ou à... Vraiment, en fait, ce n'est pas... il n'y a pas une espèce de discrimination sociale. Ce sont des gens qui... vraiment prennent de tout. Par exemple, il y a quelques mois, il y avait eu dans l'émission de cette jeune brésilienne qui présente une émission de changement de look. Et il y avait, en fait, je crois que la personne qui a eu les meilleurs points, c'était un Congolais qui a eu 10 sur 10. Et ce type, il est maçon. Mais il était d'une élégance à tomber
par terre. Ce n'est pas un sapeur, lui ?
Non, ce n'est pas un sapeur. Bon, il aime la sape, mais ce n'est pas un sapeur en tant que tel, il est maçon, voilà. Donc, ce que je veux dire, ce sont des gens comme ça qui créent des ambiances, qui créent des styles, qui créent surtout des attitudes.
Cette phrase qui m'intrigue, Marie-Jeanne, dans votre article, les troisième génération d'Afro-Parisiens ont analysé, digéré, tropicalisé les codes des Caucasiens des beaux quartiers.
Ah oui, bien sûr.
Ça peut faire grincer des dents, hein, ce genre d'analyse,
non?
Non, pas
du tout, parce que quand vous avez des jeunes qui connaissent par cœur toutes les tendances de chez Berluti. Emmanuel, je peux vous dire que Berluti est un chausseur italien qui appartient maintenant à un grand groupe français. Et le prix moyen d'une chaussure, c'est facilement 1 million CFA, c'est-à-dire 1 500 €. Et quand ces jeunes vous disent, oui, il y a Berluti maintenant qui va se lancer dans les baskets, ils savent ce que ça veut dire. Hein. Mais simplement, quand on met des Berluti, par exemple, avec sa petite chemise pagne, ben là, il y a quelque chose de décalé qui fait que bon, on crée quelque chose de nouveau. Parce que la personne qui normalement achète ses chaussures très chères va essayer d'avoir une veste en cachemire, une chemise dans un coton suisse et non pas la petite chemise pagne à 5000 francs CFA. Donc, il y a des mélanges comme ça qui font que ce sont des gens qui connaissent la qualité et surtout, ils existent et ils drainent derrière eux. C'est ce qui est intéressant. Toute une, pas une faune, hein, mais d'autres gens, d'autres jeunes qui créent aussi une mode et qui, dans ce milieu, ont vraiment une existence. En fait, ils existent vraiment. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se montrent.
Favorisés par une ville comme Paris ou pas spécialement?
Ah oui, bien sûr. Ça, c'est certain.
Plus que dans une ville américaine.
Oui, parce que Paris, il y a une espèce d'ouverture. Et puis surtout, à Paris, il y a des défilés de mode avec une population africaine. Il y a des concerts, il y a des boîtes de nuit. Il y a toute une vie afro qui existe à Paris et qui, malheureusement, n'existe plus à New York. Hein. Donc, à New York, vous avez des clubs de jazz, vous avez des choses qui se passent dans certaines villes. Mais quand vous allez à Miami, bon, en fait, c'est très mélangé. Ou alors, quand on cherche, par exemple, l'africanité aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on cherche un restaurant, par exemple, de soul food aux États-Unis, ce sera pas terrible. Alors qu'à Paris, ça existe. Donc, Paris est vraiment un creuset pour toutes ces influences. Et de ces influences, il en sort quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui est intéressant. Et surtout, c'est très créatif. Et moi, j'ai remarqué, voyageant beaucoup sur le continent africain, que tout ce qui est tendance ici, que ces jeunes créent, ça arrive le lendemain matin sur Dakar, sur Abidjan, Cotonou.
C'est dans ce sens-là.
Oui, ça voyage sur Internet.
Ah oui, ça voyage sur Internet. Ah oui, c'est impressionnant.
Angèle Hernu, Ringeval, qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça m'inspire beaucoup de choses. Je trouve que c'est l'idée de cette tribu, c'est vraiment c'est très réaliste.
Oui.
Et tout ce que vous dites sur Paris également.
Et en même temps, l'univers de la mode en France apparaît quand même plutôt, je trouve, fermé à la diversité quand on regarde les professionnels de la mode. Bah, par exemple, vous avez le portrait de 18 filles pros de la mode qui travaillent dans le secteur de la mode. Il y a une japonaise dedans, enfin, une franco-japonaise.
Le milieu de la mode, je pense que ce n'est pas en France, c'est dans le monde que le problème existe. Et d'ailleurs, c'est un problème qui est soulevé très régulièrement, qui a été soulevé il y a une dizaine de jours aux États-Unis par le CFDA, donc, qui est vraiment une entité très influente dans la mode, qui réunit tous les designers et qui a rédigé une lettre de recommandation. Donc c'est vraiment quelque chose qui a une valeur considérable dans la mode, parce que cette entité a une vraie autorité pour recommander. Ça reste très restreint comme ambition, mais pour recommander
plus de diversité
sur les podiums. Donc recommander
parce
vraiment
que Internet a ouvert la fenêtre et en même temps la mode étouffe parfois. Non,
c'est un peu ça, hein, oui.
Alors vous dressez le portrait de femmes qui sont tout à fait inconnues du grand public, hein, qui sont soit journalistes, acheteuses de grands magasins, qui travaillent dans des agences de tendance, dans des agences de communication. Personne ne les connaît. Pourquoi vous avez eu envie de les faire connaître,
hein? Justement parce que j'ai trouvé que dans la mode, les métiers qui étaient très exposés, on les avait vus, on connaissait les personnes qui les occupaient, sans forcément savoir que derrière ce devant de la scène, il y avait tout un panel de métiers absolument indispensables, peut-être un peu moins glamour que...
Oui,
que
des filles beaucoup moins excentriques que les créateurs eux-mêmes.
Voilà, mais qui font tourner la machine, qui font partie intégrante du système mode.
C'est un talent inné ou un métier ?
Un métier,
ce qu'elle montre.
Un métier. Je pense que c'est un métier combiné avec ce qu'on pourrait appeler peut-être du goût plutôt que du talent.
Une sensibilité aussi.
Une sensibilité, une capacité à composer.
C'est encore un milieu où on trouve des autodidactes ou de moins en moins?
Oui, c'est un milieu où on trouve des autodidactes.
Ouais.
Peu. C'est vrai que c'est assez professionnalisé maintenant. Je pense qu'il y a moins d'autodidactes qu'il y a 20 ans ou 30 ans, mais il y en a.
Qu'est-ce que ces filles racontent sur la mode alors aujourd'hui?
Alors ces filles, le propos du livre, c'est vraiment qu'elles nous parlent de leur métier. Donc c'est véritablement un livre sur les métiers de la mode qui a une forme assez sympathique pour le propos puisque c'est très illustré. Il y a beaucoup de photos et un peu de texte, mais elles nous parlent véritablement de leur métier. Donc comment elles en sont arrivées là, quels sont les chemins pour arriver à ces métiers de la mode et puis qu'est-ce que c'est au quotidien de travailler pour une grande marque? Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au bureau? Est-ce qu'une journée ressemble à une autre? Très concrètement, en quoi consiste leur métier?
Savoir renifler une tendance, par exemple, ça, c'est un métier qui se développe, vous devez développer ou pas, d'ailleurs, madame?
Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des cabinets de tendance, hein, c'est-à-dire qui travaillent en amont, peut-être 3 ou 4 ans à l'avance, et qui...
Oui, ça, j'ai jamais bien compris. C'est une sorte de boule de cristal?
Non,
c'est
non,
quoi?
Pas du tout. C'est-à-dire qu'on envoie, si vous voulez, des gens qui ont une sensibilité particulière dans le monde entier pour voir, par exemple, on sait que tout ce qui est cocooning, tout ce qui est bien-être va avoir de l'importance, donc on va essayer de trouver des matières, par exemple. Ça peut être un coton bio. Le coton bio marche très bien en ce moment sur l'Afrique. Ça peut être un coton bio, ça peut être des couleurs beaucoup plus pastelles. Donc, ça veut dire qu'on va proposer aux industriels de la mode d'abord des couleurs, ensuite des matériaux pour créer finalement, quand vous allez dans les boutiques, vous avez l'impression d'avoir toujours la même chose à cause de ça. Donc, ce sont des métiers qui demandent du flair et puis d'être ouvert, d'avoir les oreilles et les yeux constamment ouverts pour voir ce qui se passe dans la rue, parce qu'aujourd'hui, la plus grosse source d'influence de la mode, c'est la rue.
Ouais. Alors, vous représentez des communautés mode un peu différentes, mais toutes ces communautés, Dieu merci, communiquent, discutent. Il y a des vases communicants. Pour vous, par exemple, Karima Peroni, qui travaille pour le magazine Gazelle, c'est quoi une fille inspirante en mode?
Alors, une fille inspirante en mode, il y a des... Moi, personnellement, c'est vrai qu'il y a les blogueuses qui sont très influentes. Elles ne sont pas inspirantes, mais en tout cas, elles sont influentes. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus dans la communauté maghrébine, que ce soit en mode, en beauté ou même en lifestyle en général, même en décoration.
Lifestyle, c'est l'art de vivre. Hein.
Oui, pardon. Mais lifestyle, bon, ça comprend aussi la cuisine, le style, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux participent beaucoup à créer ces tendances, à les affirmer. Voilà, ensuite, effectivement, la rue, c'est toujours, c'est toujours une source inépuisable.
Et puis tous les secteurs se répondent, la décoration, la mode, les produits de beauté.
Il y a de plus en plus de créatrices dans la dans la communauté maghrébine, en fait, il y a de plus en plus de créatrices. Alors, pas forcément mode, mais par exemple autour de l'art. Il y a beaucoup d'artistes autour de la calligraphie, autour du street art. Mmh. Moi, je sais que je les rencontre beaucoup. Et elles sont très, très innovantes et elles se renouvellent énormément. Et alors, je ne vous parle même pas de tout ce qui va être en termes de musique aussi. Je suis moi-même étonnée à chaque fois de rencontrer des personnes aux univers complètement inédits et originaux. Mmh. Alors que on pensait que tout avait été fait au sein de la communauté.
Puisqu'on parle de musique, je vous fais découvrir, si vous ne le connaissez pas, Eddie Kenzo. Il est ougandais.
Sichalosi ndi boss, sichalosi. Dance, dance. Yefaba vubu ke mvumulo, yefaba vubu ke mvumulo. Akalero kansonga, kakubye ndi mumudu ya chigoma. Sagala nyombo, kubange ino sawa ya nungo. Bagambye sagala nyombo, ino sawa ya chikiri. Mwama sembera Mulamu wasova, jangu tetare, yansiri hakulika. Nekanzine, nenzina mumama, mulamu wajisera, ato muziki zuri sana. Nekanzine, nenzina mumama, wajisera, ato muziki jamu sana. Nse sichalosi, sichalosi, nse sichalosi ndi boss, sichalosi. Dance, dance, abange, unobulamu bumbi, zengugami, kalimunde kenange.
Sitialos et Eddie Kenzo, chanteur ougandais, vous êtes bien chez 7 milliards de voisins. Nous examinons des tendances de la mode aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans vos magazines ce mois-ci, mesdames, que ce soit Karima Peroni, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, il y a un vrai engouement pour les rouges à lèvres. Ce que confirme d'ailleurs une voisine qui nous poste le message suivant, Saliou Sira, qui est à Dakar au Sénégal, qui nous dit le rouge à lèvres est devenu un véritable phénomène en Afrique. Donc pas qu'en Afrique apparemment, que ce soit les jeunes filles ou les mères, il est inévitable pour des cérémonies, des fêtes ou uniquement au quotidien.
J'affirme et je confirme.
mais nouveau oui. Finalement, oui.
Oui. Avant, les jeunes femmes, en fait, ça consacraient à peu près tout leur budget à leur coiffure. Après, ça a été la poudre, c'est-à-dire il fallait avoir un teint et tout ça. Ensuite, ça a été les sourcils, soit qu'on rasait, après qu'on travaillait au crayon pour avoir un sourcil en queue de rat. Bon, c'était pas très joli. Mais aujourd'hui, cette audace qu'il y a de porter un rouge à lèvres très rouge.
Vous aujourd'hui, Marie-Jeanne. Ça voilà, vous va très bien.
C'est parce que j'ai mauvaise mine.
Donc, bon, ça ne se voit pas.
Donc, de porter un rouge à lèvres. Parce qu'avant, on disait aux femmes noires qu'il fallait porter donc, des tons neutres et tout ça. Et depuis quelques années, avec notamment les marques comme MAC, qui ont deux ou trois rouges à lèvres emblématiques, les femmes osent. Elles osent. Alors, les femmes avec la peau très noire osent porter des rouges à lèvres très
rouges.
Sur
la peau blanche, on a longtemps dit, Angèle, que le rouge à lèvres, ça se voyait trop, quoi, finalement. Hein, oui. Qu'il ne fallait pas en faire des tonnes.
Et moi, je trouve aussi que c'est presque un accessoire à part entière, le rouge à lèvres, parce que ça peut permettre de... en un coup de crayon, de passer de la tenue de jour à la tenue de soir. Et par ailleurs, c'est aussi, et ça me semble important, la possibilité de s'offrir quelque chose d'une très grande marque. C'est vraiment un produit d'appel qui coûte 30 euros. Et pour 30 euros, on peut avoir un petit peu de Chanel dans son sac.
Oui, les industriels l'ont bien compris. Très relayé aussi par les actrices, les comédiennes,
les réseaux sociaux. Il y a Kylie Jenner qui avait lancé une tendance il y a un an ou deux et qui a complètement décomplexé. Donc Kylie Jenner, c'est l'une des sœurs des Kardashians et qui a complètement décomplexé en fait justement les lèvres charnues. Alors elle avait fait une petite opération à 17 ans, ça on n'en parle pas, mais en tout cas elle a complètement décomplexé les lèvres charnues. Et ce qui était intéressant, c'est vraiment elle s'amusait avec des couleurs très flashy et autour des mats justement. Donc ça, c'est une des tendances très emblématiques.
Les rouges à lèvres mats,
c'est vraiment beau. La tendance.
C'est devenu. Voilà. On va y revenir. Vous restez avec nous, mesdames. Juste après le flash, on découvrira aussi une blogueuse body positive, un mouvement de femmes en surpoids qui monte et qui se se fait entendre. Ça aussi, c'est intéressant. Dans le domaine de la mode, vous pouvez bien sûr nous appeler pour participer au 33 1 84 22 71 71.
RFI, la sélection du monde.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et bien sûr de voisines, nous n'excluons personne, surtout pour parler de toutes les tendances de la mode avec nos invités Marie-Jeanne Serbin-Thomas, rédactrice en chef du magazine Brune, Karima Peroni du magazine Gazelle, Angèle Hernu-Ringeval, vous publiez Inside Fashion, c'est un portrait de 18 parisiennes inconnues du grand public qui reniflent les tendances, qui font la mode, mais qui font surtout, c'est ce que vous nous disiez en première partie d'émission, hein, qui font avancer le business, qui font tourner la machine, sous-entendu la machine à cash dans les coulisses des grands créateurs, finalement, des gens qui... On dit souvent que les gens qui travaillent dans la mode sont souvent odieux. Vous ne l'êtes pas, je confirme.
Merci.
Vous êtes d'accord ou pas?
Je dirais oui et non. Je dirais que c'est peut-être un milieu où effectivement il y a plus de gens odieux que dans les autres milieux. On rencontre aussi des gens formidables. Dans mon livre, les 18 personnes qui sont des peintes sont des personnes délicieuses. Mais j'ai croisé également des gens pas très agréables.
Ouais, parce qu'il y a finalement cette sensibilité dont vous parliez, Marie-Jeanne aussi, qui met...
Je pense que ces gens, en général, ont une telle pression, une telle peur de ne pas être aimé, une telle peur de ne pas réussir et une telle peur de ne pas réussir économiquement, qu'en fait, ils trouvent facilement des souffres-douleurs et ils ne se maîtrisent pas. Mmh. Regardez l'exemple de Galliano qui avait une telle pression.
Jeune
sur,
Galliano.
Voilà, qui a pété les plombs, comme on dit. Et puis maintenant, bon, sa carrière, on a pris un sacré coup. J'imagine que qu'on a tout ça. Et puis dans tous ces milieux où on a une grande sensibilité, il y a une peur qui existe, une peur au ventre de
oui,
que
y a,
la rédactrice
y a une dimension ne, artistique,
voilà,
oui.
ne vous aime pas, donc qu'une collection soit ratée. Donc,
le diable s'habille en Prada, c'est pas une invention.
C'est pas un, non, c'est tout à fait, ça existe tout à fait.
J'avais une expérience comme ça où j'avais travaillé dans un magazine de mode. J'y suis restée 6 mois. Je suis partie en courant. Vraiment, le milieu des attachés de presse de mode. Je suis désolée pour ça qui nous écoute, mais
pourtant,
c'est vraiment très particulier.
Pourtant, vous brossez le portrait d'attachés de presse de
mode. Mais en fait, elles sont soumises à un stress, c'est vrai, permanent. Enfin, les fashion week, finalement, c'est très récurrent. Et elles ont des pics de stress qui sont inouïs. Et du coup, c'est vrai qu'elles n'ont pas le temps elles ont pas le temps pour l'humain, en fait. Des fois, elles n'ont tout simplement pas le temps. Et c'est vrai que c'est pas... Moi, pour ma part, j'ai préféré revenir dans le milieu de la beauté. C'est vrai que certaines fois, c'était juste un rythme infernal.
Bien sûr.
La mode, une machine à cash, mais aussi une machine à exclure. Hein. On va pas se mentir. Tout de suite, rencontre avec une blogueuse mode spéciale grande taille et qui pose la question de la différence dans un univers tout de même très stéréotypé. 33 ans, coiffure afro, pulpeuse, coquette. Gaëlle Prudencio, sénégalo-béninoise en région parisienne, est devenue une blogueuse mode influenceuse, incontournable dans le domaine de la grande taille, porte-voix aussi du mouvement body positive, le corps positif. Elle est suivie par plus de 40 000 lectrices en France, aux États-Unis, en Afrique. Elle a raconté son histoire corporelle avec la mode à Alice Milo.
On est dans mon dressing. J'ai tous mes vêtements qui sont là, principalement des robes.
Est-ce qu'il y a des choses que vous n'osiez pas porter avant et que vous mettez aujourd'hui ?
Il y a bien évidemment le short, le fameux short avec lequel je décidais de prendre position, parce qu'en fait, je prends position avec mes vêtements. Dans la mesure où on me dit qu'en étant ronde, je n'ai pas le droit de mettre de couleur, je n'ai pas le droit de porter des vêtements courts, je n'ai pas le droit de porter du moulant, moi, je suis suffisamment bien dans ma peau pour dire si, en fait, j'ai le droit de mettre ce que j'ai envie de porter. Donc, j'ai un short que j'aime beaucoup, qui est rayé et blanc. En plus, il y a des rayures. Donc, quand on est ronde, on ne porte pas de rayures. Mais voilà, je cumule.
Et alors, ce short, par exemple, vous ne l'auriez pas mis il y a quelques années ?
Eh bien, non. Je ne l'aurais pas mis, tout simplement parce que je n'étais pas forcément à l'aise avec mes jambes, avec mes chevilles.
Dans votre blog, vous avez fait aussi un billet sur le débardeur, la bretelle.
Oui. Eh bien, oui, parce que...
Vous en avez, là ?
Là, oui, j'ai une petite robe sans manches, avec des bretelles fines. En fait, il y a énormément de femmes qui n'osent pas montrer leurs bras. Donc j'ai fait beaucoup de yo-yo, j'ai perdu énormément de poids, j'en ai repris énormément et donc j'ai des vergetures et les vergetures apparaissent à cause de ça, à cause du fait de d'avoir la peau qui s'étend, qui se détend et etc. Et du coup c'est pour ça que j'avais aussi du mal à montrer mes bras.
Est-ce que je peux vous demander du coup votre poids et votre taille ?
Oui, alors ce matin je faisais 142,8 kg et je mesure 1m72. J'ai perdu ma grande sœur quand j'avais 12 ans. À partir de ce moment-là, j'ai pris énormément de poids. Elle avait 18 ans, c'était mon modèle, c'était une très belle jeune fille. Et donc, à l'âge de 12 ans, c'est vraiment là que j'ai pris du poids. En plus, il y a eu l'adolescence. En plus, je suis allée m'installer au Congo avec ma maman. Je vivais au Sénégal. Et là, j'ai commencé à faire des régimes parce qu'on me disait qu'il fallait maigrir. Clairement, parce qu'on me disait que c'était pas normal. Quand j'étais dans des fêtes de famille, c'était « Ah, Gaëlle, faut que tu fasses attention, faut pas que tu manges ça, c'est pas bon pour toi. » Et donc, je m'étais persuadée que je n'étais pas normale. Moi, pendant toute mon adolescence, j'ai fait tous les régimes. Jusqu'à il y a 13 ans, je pesais 140 kilos, donc à peu près le même poids qu'aujourd'hui. Et je me souviens avoir dit « Pour mes 20 ans, je vais être mince. » Donc j'ai perdu ces 40 kilos, j'étais effectivement mince pour mes 20 ans, mais une fois cet objectif atteint, j'ai recommencé à prendre du poids. Et 6 mois après, j'avais pris 50 kilos. À partir du moment où j'ai pris ces 50 kilos-là, j'ai commencé à me demander si je ne pouvais pas essayer de m'aimer, de me découvrir. Et c'est là que j'ai découvert ce qu'était ce qu'on appelle la size acceptance, qui est le fait de s'aimer tel qu'on est, au stade où on est dans sa vie. En 2007, j'ai moi aussi décidé de créer mon blog. Et le fait de créer mon blog a été un déclencheur pour m'apprécier, pour m'accepter grâce à Internet. Et donc, j'ai commencé à porter un Bermuda et à remonter un peu plus au fur et à mesure.
Petit à petit, vous perdiez des centimètres, c'est ça ?
Exactement, je perdais des centimètres. Et les réactions que je vois souvent, ça va être des personnes qui sont surprises, certes, mais finalement, ce n'est pas du tout négatif. En tout cas, je ne le prends pas négativement parce que je me rends compte qu'il y a énormément de femmes qui n'osent pas, qui se disent « j'attends, quand je perdrai 15-20 kilos, bien je pourrai porter telle robe, je pourrai porter tel short, etc. » Et je pense que ces femmes-là se disent « mais attends, elle ose, pourquoi est-ce que moi je n'oserais pas ?» Et c'est ce genre de réaction-là que je vois désormais. C'est plus du tout les gens qui rigolent, etc.
Vous êtes née au Sénégal, mais vous êtes d'origine béninoise. Ouais. Vous avez grandi au Sénégal, puis en RDC. Mmh. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, vous qui vivez à Paris, est-ce que la femme ronde est perçue différemment en Afrique qu'aujourd'hui en Europe ?
Moi, j'ai l'impression qu'en Afrique, on a plus tendance à tolérer la femme ronde quand elle a eu des enfants, quand elle a un certain âge et qu'on dit qu'elle peut être épanouie et pas quand c'est une jeune femme de 20, 25 ans, 18 ans qui a des rondeurs. Aujourd'hui, on est quand même dans une sorte d'occidentalisation des normes de beauté. Il n'y a rien qu'à voir dans les défilés, les Miss, les élections de Miss. Je n'ai jamais vu de femme ronde dans une élection de Miss pour un pays africain. Il y a des élections de tout ce qui est Miss Aoulaba, c'est la Miss Ronde en fait, mais c'est une catégorie particulière. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une élection de Miss où toutes les beautés sont représentées. Et j'adorerais que Miss Bénin soit un jour une femme qui fait du 46 ou du 48, qui représente réellement la femme telle qu'elle est, la femme africaine avec ses formes aussi.
Gaëlle Prudencio, blogueuse mode grande taille. Bien sûr, il y a le lien sur notre page 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr et sur notre page Facebook. Que vous inspire-t-elle, mesdames ? Karima ?
Effectivement, l'idée, c'est de dire que la mode n'est pas réservée qu'aux femmes qui font du 32, du 34 ou du 36. C'est un vrai message de tolérance et ça répond aussi à une mouvance qu'on retrouve, alors pas forcément dans tous les magazines, mais en tout cas...
c'est le moins qu'on puisse dire.
Dans les pages mode,
Les vôtres non plus, mesdames.
Pages mode, non, mais sincèrement, dans les pages people, par exemple, il y a de plus en plus d'icônes et même des égéries de grandes marques qui ne font plus du 32 ou du 36.
Oui, des
notamment les stars afro-américaines.
Et puis H&M a encore dernièrement revendiqué la différence et les femmes de toute corpulence dans un dernier spot, là, après avoir défrayé la chronique avec les femmes de tout horizon, dont religieux. Oui. Mais là, dernièrement, c'était vraiment sur des femmes qui peuvent être androgynes ou plutôt rondes, etc. Et donc, il y a aussi les publicitaires qui jouent de plus en plus le jeu, même si c'est encore un chemin qui est assez long et peut-être trop lent pour certaines.
Angèle Hernu.
Oui, chemin long, je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve effectivement qu'au niveau corporel, il n'y a pas du tout de diversité. Après, il y en a eu. Les corps n'étaient pas les mêmes non plus dans les années 80. On se souvient toutes des supermodèles qui n'avaient absolument rien à voir avec les mannequins qu'on voit sur les podiums aujourd'hui.
Ah bon ? Après, Cindy Crawford et les Karen Mulder, elles ne faisaient pas non plus du 44.
Elles ne faisaient pas du 44, mais c'était quand même des femmes qui avaient des formes, qui n'avaient pas 16 ans aussi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup une question d'âge qui intervient ici.
Donc les mannequins ont maigri, ils rajeunissent ces dernières années.
Les mannequins sont extrêmement jeunes.
Ces 20 dernières années pour vous.
Oui, de toute évidence, oui.
Il y a une occidentalisation des normes de beauté ou au contraire, avec la mondialisation, il y a aussi une émergence de modèles différents aujourd'hui?
Non, moi je pense qu'il y a une occidentalisation des normes de beauté. Simplement, tout ça est métissé. C'est-à-dire que même quand une jeune femme, une africaine par exemple, met un tissage blond, elle garde un côté africain, c'est-à-dire elle ne sera jamais blonde. Elle garde peut-être sa tenue pagne, elle garde son petit collier en cori. Et ce qui est intéressant avec Mademoiselle Prudencio, mais qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle, c'est une vraie folle de mode. C'est-à-dire qu'elle se maquille, elle se coiffe. Ce n'est pas seulement le vêtement.
Oui, c'est une vraie blogueuse mode,
oui. Voilà, c'est vraiment... elle fait une recherche donc, esthétique.
Comme toutes les blogueuses, finalement.
Voilà.
C'est pas parce que son poids que...
Mais le problème, c'est que bien souvent, des jeunes femmes vont appliquer ça en se disant, tiens, je vais porter une robe très serrée, une robe moulante. Mais elle arrive à se créer un style parce qu'elle a du goût, parce qu'elle a fait des recherches. Mmh. Mais il n'est pas sûr que le résultat sur quelqu'un d'autre, qui ne soit pas maquillé, qui n'ait pas peut-être cette élégance ou ce flegme pour porter les choses, soit aussi réussi.
Mais Angèle Hernu, vous qui connaissez la mode de l'intérieur, puisque vous publiez ces portraits de professionnels de la mode, comment expliquer que la mode, qui tous les professionnels revendiquent pour travailler dans la mode, il faut avoir cette capacité de s'adapter en permanence, comment se fait-il que, alors que les silhouettes sont en train de changer dans le monde entier ou presque, de prendre du poids, comment se fait-il que la mode ne s'adapte pas justement au changement des corps des femmes et des hommes?
Je pense que la mode s'adapte, mais peut-être pas sur le devant de la scène, justement, puisque il y a effectivement ce qu'on voit dans un défilé, ce qu'on voit dans un magazine, et puis derrière il y a du commerce. Donc les tailles, on vend pas de la taille 32 en magasin. Vous allez dans n'importe quelle boutique, je pense que vous pouvez trouver peut-être pas du 46 effectivement, mais une femme qui fait du 42 pourra très bien aller s'acheter une robe dans n'importe quelle grande...
Il y a des collections rondes aussi.
Il y a aussi des collections rondes.
Enfin, 42, ça reste comme une taille...
Voilà, par rapport à 48-50, c'est différent.
Oui.
Mais par exemple, en Allemagne, en fait, les tailles sont beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que la morphologie de l'allemande est différente de celle de la française. Il est très facile en Allemagne de trouver des tailles 44-46. Mais pour en venir à la question, Emmanuel, pendant très longtemps, on a dit le problème, en fait, c'était une image de perception de la femme. Donc, très souvent, les créateurs de mode sont homosexuels. Ils ont une image complètement androgyne de la femme, c'est-à-dire une femme sans sein, qui a un corps masculin, avec des petites hanches, et ça, pendant très longtemps, ça a joué.
Vous vous souvenez de la phrase de Karl Lagerfeld, qui est toujours très cash, qui disait « si on pouvait vendre des vêtements portés par des mannequins rondes, ça se saurait ».
Oui, bien sûr. Parce que pour eux, un vêtement, c'est d'abord une image, c'est d'abord un marché. Et le marché que la plupart des créateurs de mode tentent d'approcher, c'est le marché asiatique. C'est-à-dire des femmes sans poitrine, sans fesses, avec un petit corps en hache, sans taille aussi, avec un corps en hache.
J'ai l'air nulle. Alors vous qui avez travaillé quand même pas mal de temps pour de la mode japonaise.
Oui, et à l'inverse, justement, moi j'ai travaillé pour un créateur japonais qui propose une mode comme beaucoup de ses compatriotes. Très large, qui n'épouse pas les formes du corps.
Yamamoto, pour ne pas le citer.
Oui. Et donc, lui, sa philosophie, c'est vraiment de voir la sensualité de la femme dans l'espace qui existe entre le corps et le vêtement.
Donc des manches à balai dans des sacs, diront les mauvaises langues.
Non, parce que quelqu'un comme Issey Miyake a fait avec son pleat pleats, en fait, il a fait des modèles qui allaient à toutes les femmes et c'était très intéressant de voir finalement ces vêtements extensibles mais qui gardaient leur forme aller à du 36 comme à du 46.
Oui, et ça que a chacun été... peut s'approprier que aussi chacun... à sa manière la personne qui porte le vêtement a quelque chose à apporter au vêtement.
Vous restez avec nous, mesdames, dans quelques instants, on parle de l'affaire des défrisants L'Oréal aux États-Unis et puis aussi on donnera des trucs de grand-mère avec pas mal de conseils notamment d'auditeurs. Ça sera juste après Toumi. Oh yeah.
Cette milliard de voisins c'est maintenant.
I know my lovely wife at home. I know something about right and wrong. I know the boundaries of so girl and girly visa.
Then avoid me visa.
I know that men are hungry lines. I know you don't easily believe it or buy it. I know the boundaries, so please give up that visa.
You need the visa.
Yep. Friday night in the back of the Uber. I loot the continua. Got on my mind, so the cap says Puma. Checking myself for the ratchetry. Hey, Saturn Boomer. SMS in the baddest chick. I see error, she sees the future. Hey, Guasuga. I kept it 107. We met at a pop at a session event. And I asked her who next. And she guessed, probably cast my your vest. Got her a drink. I told her my visa expired. I think I just sit and admire. You know, just be in the vibe. But nope, she thinking like this is a sign. Yo. Yeah. I come the friendly zone. Bob, do I have no entry code? I'm safe at home. Or maybe Ipanyas. I'm telling you could. With my four cousins, they whining for more budget. I slide a Moscato and ride off into the smog sunset. Ducking my damn ex, she wants me butt naked. I like that she likes me, encourage a slightly half step. But boundaries are boundaries, and wifey will wring my fat neck. If one of them out me, she'll write me in.
In the street, fam!
Visa, c'est Toubi, le Sud-Africain, chez 7 milliards de voisins. L'affaire des défrisants, le numéro 1 mondial, j'aurais quand même qu'on en parle, de la cosmétique, fait l'objet d'une plainte par un collectif aux États-Unis. Le numéro 1 mondial, c'est L'Oréal, contre une des marques de beauté ethnique du groupe L'Oréal pour un défrisant utilisé par la communauté noire américaine. Vous êtes très sensible à ce sujet, Marie-Jeanne.
Oui, au sein de Brune, on a toujours été pour une information réelle des femmes, parce que malheureusement, beaucoup de magazines se contentent de dire « oui, le défrisage, ça permet d'avoir les cheveux lisses, c'est bien » et tout ça. Et nous, on a toujours dit « attention, le défrisage n'est pas un geste anodin, il y a des... Une fois sur deux, il y a des risques de chute, des risques de brûlure, de tonsure, quand ce n'est pas des grosses allergies. Et le problème, c'est que avant, on allait chez le coiffeur pour se défriser. Maintenant, on se défrise à domicile parce que ça coûte moins cher et on n'a pas forcément les gestes professionnels pour le faire. Donc, c'est devenu un geste banal. Et les femmes noires, en général, quand ça leur arrive, en fait, elles ne font rien. Ouais. Et c'est très bien que des femmes aux États-Unis et pris la balle au rebond.
Oui. Et avec une action de groupe, évidemment, avec plusieurs milliers de personnes, ça aura un écho retentissant.
Bien sûr, parce que quand vous allez chez le coiffeur et que le lendemain, vous n'avez plus rien sur la tête parce que ça arrive...
Mais qu'est-ce que ça pourrait changer qu'est-ce que le procès pourrait changer, finalement?
Déjà, une meilleure information et puis peut-être ne pas vendre de défrisants en accès libre comme ça, parce que ce sont des produits qui sont très dangereux.
En même temps, ce sont des produits qui répondent à une demande du marché.
Oui, mais le problème, c'est en fait, ce n'est pas seulement L'Oréal, parce que tous les défrisants font tomber les cheveux. Il n'y en a pas un seul. Moi, je les ai essayés, ça fait 6 ans que j'en fais plus.
Mais celles qui l'utilisent le savent.
Non, elles ne le savent pas parce que...
Elles savent qu'elles abîment leurs cheveux en le dénaturant. Elles jouent le jeu parce qu'elles ont envie...
Non, c'est absolument pas possible. Non, c'est pas vrai. Quand tu vas te faire du bronzage, tu penses pas que tu vas attraper un cancer.
Bah si. Moi personnellement, je me fais lisser les cheveux. Je sais que c'est pas bon pour mes cheveux, oui, mais je préfère prendre le risque que ça soit moins bon pour mes cheveux et avoir un cheveu qui est plus discipliné. Oui, moi, je le sais en tout état de cause, et pas juste parce que je suis journaliste beauté, mais je veux dire, même dans, enfin, tout le monde autour de moi sait qu'à partir du moment où on transforme ses cheveux, même quand on fait une couleur, on sait que, enfin, même c'est là juste la logique, on sait qu'on va transformer, donc on va l'abîmer, et pour autant, l'envie, les modes, les tendances, la praticité.
Non, la déformation n'est pas. Dans un, quand tu prends un kit, par exemple, de défrisant, il n'y a jamais marqué attention au risque de
brûlure, chute, de vésicule,
de brûlure. Il y a écrit qu'il faut d'abord.
Un test d'allergie.
Ouais, pour les tests
donc, quand tu vas chez le coiffeur, on te fait un test d'allergie ? Non. Même toi, donc les femmes. Donc voilà, moi je dis, ce sont des produits qui sont dangereux, il n'y a pas assez d'informations dessus. Des femmes parfois avec des cheveux très...
Ça pose des questions éditoriales pour vous quand même dans vos magazines Brune, Gazelle. Vous avez des lectrices qui ont fréquemment des cheveux crépus, bon, beaucoup pour le magazine Brune évidemment, mais parfois aussi très souvent pour le magazine Gazelle, des cheveux très, très frisés. Ce sont aussi de gros annonceurs pour vous ?
Ah non, absolument pas, puisque nous on a fait des articles par exemple sur qu'est-ce qui est le plus dangereux, se défriser ou se tresser. Et en fait, on s'est rendu compte que le tressage, par exemple les tresses mal faites, sont plus dangereuses à long terme parce qu'en fait, là, on peut avoir une alopécie, c'est-à-dire le cheveu qui tombe et qui meurt, le bulbe qui est arraché. Donc, ça veut dire qu'on peut se retrouver avec 5 à 10 cm de surface complètement imberbe à cause d'un tressage qui est mal fait.
Et alors, des conseils après un lissage et un dossier dans Gazelle là-dessus.
La vraie information, en fait, c'est de dire qu'à partir du moment où on prend le parti de transformer son cheveu, bien sûr, essayer d'utiliser le produit qui va être le moins dangereux.
Ils sont tous dangereux.
Mais c'est surtout ensuite, et c'est là où nous, on a une responsabilité, c'est surtout ensuite de bien travailler son cheveu autour du soin. Et c'est l'un des articles qu'on a traité dans Gazelle, où en fait, l'idée, c'est vraiment de dire qu'il faut traiter son cheveu. C'est pas parce qu'il a été transformé qu'ensuite, on se dit, bon, voilà, on va attacher ses cheveux et ça y est, on n'y touche plus. Donc, on continue de le soigner. Et c'est vrai qu'il y a toute une ribambelle de produits et de rituels autour des soins post-lissage.
Également dans Gazelle.
Faut savoir, Emmanuel, que quand vous faites un défrisage, en général, les cheveux tombent quasiment dans les 48 heures. Donc, le soin, là, c'est d'abord
dans
pleurer.
Dans les kits de défrisage, il y a un soin qui est...
Mais ça dépend aussi du niveau d'intensité du défrisage, du cheveu de base, etc.
Mais en fait, il existe des défrisants pour enfants, d'accord, aux États-Unis. Même ces défrisants pour enfants font des chutes de cheveux sur des adultes. Donc, ça veut dire qu'au départ, il y a un problème quand même sur ces produits qui sont soit trop dosés...
Revenons au naturel. Conclusion. D'autant plus qu'on a les conseils. C'est dur, le naturel.
Attendez,
il y a un dossier 100% de Jeddah, une rentrée 100% de Jeddah dans Gazelle. Donc, recette de grand-mère. Hein.
Mais oui,
Jeddah, c'est qui veut dire grand-mère en arabe.
Jeddah, oui.
Juste avant que je vous donne la parole, on a aussi les conseils postés par Brice de Yaoundé qui partage ses conseils beauté. Pour garder un visage soyeux, une fois par semaine, nous dit Brice, je pose du miel sur mon visage, je laisse poser une couche épaisse et je laisse sécher pendant 30 minutes. Je rince ensuite abondamment avec de l'eau fraîche. Résultat, mon visage rayonne. Et ça coûte pas cher. Hein. Deuxième recette, toujours de Brice, encore plus efficace, à faire deux fois par semaine. Je pense que c'est valable aussi pour les voisines. Hein,
oui,
Brice. Je prends de la poudre de maïs. Vous connaissiez ça, Marie-Jeanne ? Poudre de maïs.
La farine de maïs, en fait.
Oui, je veux dire de la farine. Vous avez raison. À laquelle j'ajoute un œuf. Je mélange bien, je frotte mon visage avec une partie de ce mélange et ensuite, je recouvre mon visage avec l'autre partie que j'avais gardée, je laisse poser 15 minutes, puis je rince abondamment. Résultat, plus d'excès de sébum, ni la peau sèche, ma peau est fraîche et claire. Voilà. Et puis Mohamed poste aussi un petit conseil du Bénin. Alors là, bon, ne vous vexez pas Mohamed, mais on connaît. Pour garder ma peau toujours lisse et naturelle, j'utilise la recette de ma grand-mère, beurre de karité, tous les jours, efficace, pas du tout toxique.
Brice, il est génial.
Ils sont bien nos voisins quand même.
Exactement.
Ils prennent soin d'eux.
C'est vrai que Rémiel, on en a parlé dans notre dossier. Oui, l'idée, c'est de se dire on n'est pas obligé d'utiliser des produits de beauté qui vont nous coûter énormément cher. On a juste à ouvrir son frigo quelques fois et puis avoir des résultats qui peuvent être tout aussi bien. Donc, c'est vrai que le miel, c'est un vrai ingrédient beauté. Mais on a par exemple aussi pour les problèmes de peau, comme Bruce disait, c'était un masque au persil. Ça peut être. Vous utilisez juste du persil que vous allez moudre et puis vous l'appliquez sur le visage. On a aussi, par exemple, pour les cheveux, tout à l'heure, on parlait des problèmes d'alopécie. Il y a un remède qui est très efficace. Et alors, vraiment, au Maghreb, tout le monde connaît ce remède et beaucoup, beaucoup de femmes l'utilisent, ce sont des gousses d'ail. En fait, on frotte le cuir chevelu avec de l'ail. Alors, je vous l'accorde, l'odeur ça est prend. Juste horrible. Alors, généralement, celles qui font ça, elles vont... alors, bien sûr qu'on ne sort pas, mais c'est
célibataire
surtout...
pendant 3 jours.
C'est surtout qu'on on va après protéger ses cheveux avec un foulard, parce que c'est vrai que ça sent vraiment très fort. Mais pour le coup, ma grand-mère avait fait ça, je me souviens très bien. Je sentais les odeurs qui m'incommodaient, mais ma grand-mère, vraiment, elle a eu des cheveux qu'on repoussait là où on pensait qu'il allait plus avoir de repousse. Donc vraiment, ça marche. Et puis, vous savez, finalement, il n'y a rien de nouveau. La nature et les plantes sont la base même des cosmétiques.
Y compris de la recherche cosmétique, bien sûr. Hein. Angèle Ernur-Ingeval, vous qui avez beaucoup travaillé pour les créateurs asiatiques, la cosmétique est omniprésente dans la mode asiatique.
Oui, oui, vraiment.
La recherche de la perfection.
Des rituels très, très élaborés. Ce qu'on appelle le layering aussi, de mettre plusieurs produits d'affilée sur la peau jusqu'à en mettre 5 ou 6. Oui, il y a énormément de... Tout est très
aujourd'hui,
ritualisé.
Aujourd'hui, en fait, la Corée du Sud est le pays où vont tous les cosmétologues occidentaux pour trouver, pour imiter, pour s'inspirer. Donc, des techniques à appliquer. Et ça peut être des produits très, très, très chimiques, mais ludiques souvent.
Et aussi des recettes on ne peut plus naturelles, puisque les Coréennes se font... ont des,
des
espaces...
Je me posais la question. Est-ce qu'il y a des recettes naturelles chez les Coréennes?
Les Coréennes, elles ont un rituel corporel qui est, je pense, on ne peut plus naturel, puisqu'elles ont ces bains publics dans lesquels donc elles se baignent entre femmes et dans d'autres bains entre hommes, dans des bains qui sont à des températures très différentes, passant du bain bouillant au bain froid, et ça fait un gommage naturel.
C'est la même
naturel.
Asiatique, en fait.
Oui.
Ah ouais.
Merci beaucoup, mesdames. Angèle Ernur-Ingeval, Inside Fashion, donc un portrait de 18 parisiennes. C'est publié aux éditions de La Martinière, qui travaillent dans la mode et qui font découvrir les métiers de la mode, et puis également leurs adresses dans la capitale française. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, rédactrice en chef de Brune, Karima Peroni, Gazelle. Merci beaucoup, mesdames. Vous revenez quand vous voulez pour les nouvelles tendances. Vous nous parlerez aussi des créateurs que vous découvrez sur le continent africain. Vous repartez bientôt, Marie-Jeanne, là.
Abidjan pour Abidjan Fashion Week. Début octobre, organisé par Isabelle Hanot.
Est-ce qu'il y a un seul mois sans Fashion Week sur le continent africain? Je ne sais pas.
Non.
Merci en tout cas à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Camille Néron, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des prisons. Un scandale français, alors que des normes internationales décentes font entendre leur voix. Et chez vous, bien sûr, les voisins, vous pouvez tout à fait participer aux discussions de demain. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Quelles conditions carcérales dans votre pays? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Également, tous vos messages à 7milliards@rfi.fr. À demain.
Tous les jours, Accent d'Europe vous